Le journal de 8h vous est présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. La canicule, la sécheresse et peut-être bientôt des inondations. C'est en tout cas la menace qui plane sur le sud de la France où sont attendues de fortes pluies aujourd'hui. Une eau qui ne peut s'infiltrer dans une terre trop sèche, dure comme de la pierre. Anthony Kazmarek, notre spécialiste météo, on vous retrouve. Quels sont les territoires les plus menacés?
Il s'agit du sud du Massif Central et du Languedoc, car c'est là que l'air frais qui s'infiltre par l'ouest aujourd'hui va rencontrer de l'air chaud et humide, le tout boosté par une Méditerranée très chaude pour la saison. Le Tarn, l'Aveyron et l'Aude, en vigilance orange, seront les premiers touchés dans le courant de l'après-midi, avec sous ces orages de forts cumuls de pluie, un risque de grêle et de fortes rafales de vent, 80 à 100 km/h. Et puis en début de soirée, les orages vont gagner l'Hérault et le Gard, eux aussi en vigilance orange, avec des intensités pluvieuses très élevées, sans doute 100 à 120 litres d'eau par mètre carré, et en peu de temps, les orages s'accompagneront aussi de phénomènes violents et parfois tourbillonnaires. Le risque d'inondation sera donc maximal, d'autant que le vent freinera l'écoulement des pluies vers la mer, donc évidemment, grande prudence, grande vigilance.
Merci beaucoup Anthony Kazmarek, on suivra ça avec vous. Les pluies prévues aujourd'hui, en tout cas dans l'ouest de la France, auront un avantage, soulager tout de même le travail des pompiers.
Alors depuis le début de l'été, 62 000 hectares sont partis en fumée, une saison précoce et violente qui révèle aussi les limites de notre stratégie de lutte contre les feux, Guillaume Dominguez.
Notre dispositif contre les incendies est l'un des plus performants du monde. Près de 1500 sapeurs-pompiers spécialistes des feux de forêt sont répartis en 24 groupes dans tout l'Hexagone. En cas d'incendie, ils sont appuyés par les effectifs des services départementaux, les pompiers volontaires et les moyens aériens, soit plus de 10 000 hommes au total. Et pourtant, pour la première fois cet été, à cause des conditions météo extrêmes, il a fallu mobiliser l'ensemble du dispositif pour lutter contre les nombreux incendies. Pour Grégory Allion, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, c'est toute l'application du modèle qu'il faut revoir.
Notre dispositif qui était conçu avec une solidarité nationale qui permettait aux départements du nord de la Loire de venir en aide aux départements du sud est complètement mis à mal parce que les départements du nord de la Loire et de tout l'espace métropolitain sont soumis aux feux de forêt. Donc les moyens, oui, sont en rupture capacitaire, que ce soit en termes de moyens matériels, mais aussi de moyens humains pour y faire face.
Le dispositif avait pourtant été conçu pour tenir jusqu'en 2030, et ce en prenant en compte le dérèglement climatique. Alors face à l'urgence de la situation, les représentants des pompiers de France tirent la sonnette d'alarme dans une tribune parue dans le journal du dimanche. Ils demandent à ce que les moyens financiers alloués à la lutte contre les feux de forêt soient multipliés par deux.
Guillaume Dominguez.
Les moyens de lutte contre ces incendies, ce sera le thème de la réunion organisée prochainement par Emmanuel Macron. Pompiers, élus, agriculteurs, le chef de l'État réunira tous les acteurs des départements qui ont été concernés.
Et en attendant, le gouvernement a d'ores et déjà annoncé la mise en place d'une cellule incendie d'ici la semaine prochaine. L'idée, redonner, je cite, un peu d'oxygène aux sinistrés des feux de l'été. Une métaphore de Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, pour parler des aides fiscales qui seront accordées à Alexandra Gégis.
Oui, cette cellule sera mise en place à la direction des finances publiques en lien avec les URSSAF. Trois grandes mesures sont déjà annoncées pour les particuliers qui ont des biens durablement touchés. Ils auront un délai exceptionnel sur le prélèvement de l'impôt sur le revenu. Leurs impôts locaux seront suspendus. Et enfin, des facilités seront accordées pour payer moins de taxes d'habitation et de taxes foncières. Du côté des entreprises, Gabriel Attal annonce des reports pour payer les échéances fiscales et les crédits de TVA et de CICE. Le crédit d'impôt sur la compétitivité et l'emploi seront remboursés plus vite. Sur le long terme, le ministre promet de nouvelles mesures dès l'été prochain pour anticiper au mieux les feux et les moyens dédiés à la lutte contre les incendies seront revus à la hausse dans le prochain budget.
Alexandra Gégis et le vote du prochain budget, justement un des dossiers brûlants de la rentrée politique qui s'annonce tendue. D'ailleurs, les vacances vont être courtes pour le gouvernement.
C'est le cas notamment pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sollicité sur les incendies, les rodéos urbains, pas de trêve pendant l'été. Et c'est même d'ailleurs devenu une habitude à cause d'un certain précédent, Alexis de la Fontaine.
Oui, en 2003, Jean-François Mattei commet une terrible erreur de jugement. Alors ministre de la Santé, il préfère rester en vacances plutôt que gérer une des pires canicules que la France ait connue. Bilan 15 000 morts et une opinion vent debout. Impossible de rester en poste après un tel échec, le ministre sera débarqué quelques mois plus tard. Depuis, chacun a bien retenu la leçon, comme en juillet 2018, pendant que la France célèbre la Coupe du Monde de football, l'affaire Benalla secoue l'Elysée. Résultat, les ministres écourtent leurs vacances et chacun essaye de calmer le jeu jusqu'à la prise de parole du président. Ou encore en 1999, après le naufrage de l'Erika, la ministre de l'Environnement Dominique Voynet refuse d'interrompre ses vacances à La Réunion pour se rendre sur place. Un faux pas évident.
Maintenant, été comme hiver, consigne est donnée au ministre. Les vacances, c'est à 2 heures maximum de Paris.
Alexis de la Fontaine, des vacances d'ailleurs endeuillées par le drame de Colmar. D'importants moyens sont mis en œuvre pour retrouver le tueur. Réaction de Gérald Darmanin sur Twitter. Un homme de 27 ans est mort dimanche. Il a été tué par balle après s'être opposé à un rodéo urbain. Le tireur a pris la fuite. Une information judiciaire a été ouverte.
Europe 1, il est 8h06. Un prédateur qui abusait de victimes vulnérables. C'est le portrait glaçant de Benjamin Mendy, dressé par le procureur au tribunal de Chester.
Une ville du nord de l'Angleterre où le footballeur français champion du monde est jugé depuis la semaine dernière. Benjamin Mendy est poursuivi pour viol et agression sexuelle sur 7 femmes. Laure Van Rienbeek, vous suivez ce procès pour Europe 1 avec des détails glaçants à l'audience hier.
Oui, le procureur n'a pas mâché ses mots. Benjamin Mendy et Louis Saha Maturi, les deux accusés, sont des prédateurs sexuels, selon lui, en utilisant le pouvoir et l'argent. Le rôle de Saha Maturi, selon l'accusation, était de trouver des jeunes filles à Mendy et créer des situations dans lesquelles elles se sentiraient vulnérables et qu'elles seraient plus tard violées et agressées sexuellement. Il rencontrait ces filles dont l'identité est protégée dans des boîtes de nuit le plus souvent, les ramenait au domicile de Benjamin Mendy, une immense maison avec piscine et cinéma. On a d'ailleurs découvert sa villa grâce à une vidéo projetée pendant le procès. Certaines filles auraient, selon l'accusation, été agressées, voire violées par les deux hommes. Au total, 13 femmes les accusent. Tout à l'heure, le témoignage enregistré d'une première plaignante est attendu. Le procès va durer 3 mois, une partie pour l'accusation et une pour la défense. À la fin, les 12 membres du jury, 8 hommes et 4 femmes, déclareront si Benjamin Mendy et Louis Saha Maturi sont coupables ou pas.
Laure Van Rienbeek, correspondante au Royaume-Uni pour Europe 1. Le procès doit durer jusqu'en novembre. Benjamin Mendy risque la prison à perpétuité.
C'est une maladie que l'on pensait éradiquée dans les pays développés. Le virus de la polio a été détecté dans les eaux usées de New York aux États-Unis.
Oui, et même chose à Londres, au Royaume-Uni, où les autorités invitent même les enfants à se faire vacciner. Alors, est-ce que la France pourrait être aussi concernée par des cas de polio? La réponse est tout simplement oui pour le professeur émérite d'infectiologie Jean-Paul Stahl.
Il est très clair que si on est infecté par le virus de la polio, c'est parce qu'on n'est pas vacciné. Ou alors qu'on est profondément immunodéprimé et que les vaccinations ne sont plus opérantes. Et donc le message, c'est qu'il faut absolument avoir une bonne vaccination contre la polio, qui est une maladie extrêmement grave. C'est vraiment une vaccination qu'on peut faire à n'importe quel moment de la vie. C'est un vaccin qui est très, très, très efficace.
Et en France, avec 4% des enfants qui n'ont pas reçu leur rappel en 2019, est-ce qu'on risque une épidémie?
On peut assister à des petites épidémies dans des populations très particulières qui n'ont pas été vaccinées. On n'aura jamais une grande épidémie en raison de la couverture vaccinale globale, mais des cas chez les personnes non vaccinées, le risque existe.
Jean-Paul Stahl, professeur d'infectiologie, il répondait aux questions de Yasmina Katou. 8h09, une catastrophe à Zaporijjia menacerait l'Europe tout entière. Avertissement du président ukrainien Zelensky face aux frappes qui visent la plus grande centrale nucléaire européenne, passée sous contrôle russe en février.
Et depuis le début de cette guerre, près de 100 000 Ukrainiens se sont réfugiés en France.
Oui, principalement des femmes et des enfants. Et justement, grâce à l'association Croque Vacances, certains d'entre eux ont même pu partir en vacances. Une 20aine de petits Ukrainiens ont passé quelques jours en colo dans un camping d'Ille-et-Vilaine. Rencontre touchante avec notre correspondant Charles Guyard.
Attention les enfants, vous êtes prêts?
Il est midi, c'est l'heure de passer à table. Une animatrice lance le chant rituel. Devant elle, 32 enfants, dont 4 qui ne comprennent pas tout et pour cause, ils sont réfugiés ukrainiens.
Je m'appelle Elisabeth.
Je m'appelle Sophia.
Leur présence ici est une vraie bouffée d'oxygène dans leur existence fracassée par la guerre. Margot Florian, directrice du séjour.
Pour nous, vraiment, notre objectif, c'est de les voir s'amuser, en train de faire des activités manuelles.
Des activités et des règles de vie qu'il a fallu adapter à la situation.
Alors, on a une thématique construction de cabane. Souvent, les enfants, ils prennent les bâtons de bois et ils en font des armes. Là, on a sensibilisé le groupe. Pareil, tout ce qui va être la grande soirée, on va éviter de mettre des ballons en baudruche parce que si ça explose, on ne veut pas les effrayer. Ils ont tout de suite compris.
Des enfants très affectés par le sort de leurs nouveaux amis dont ils saisissent du haut de leurs 10-12 ans parfaitement le désarroi.
Ça me rend triste.
Je me sens mal de voir qu'elle a vu ses proches se faire bombarder.
Vous imaginez, vous êtes dans votre pays, il y a une guerre et vous devez partir. Je trouve que ça fait mal au cœur.
C'est injuste.
Je sens heureux d'être là, mais à l'intérieur, je crois que ça ne va pas.
Voilà des avis bouleversants, mais des attitudes bienveillantes et c'est cela aussi la magie de l'enfance, la tendresse n'a pas de frontières.
On leur remonte le moral, on rigole avec elles.
Fince, Charles Guyard, Europe 1.
Voilà les colonies de vacances, souvent d'ailleurs l'un des plus beaux souvenirs d'enfance. Et puisqu'on parle de vacances, de sourire, Lionel, je peux pas résister.
Eh oui.
Vous avez peut-être la chance d'écouter d'ailleurs cette musique sur la plage, hein, qui sait à 8h11 à la fraîche, c'est tout aussi agréable. Bon, il y a quand même une raison, Madonna fête aujourd'hui ses 63 ans. Vous avez remarqué, Lionel, que je suis très renseignée sur les anniversaires de stars. Hein, ouais. Donc
vous
voilà,
savez
vivement demain.
Vous savez qu'elle a vécu à Lille, Madonna, à la fin des années 70, 18 mois, parce qu'elle avait été repérée, figurez-vous, par le producteur de Patrick Hernandez, Born to be Alive, qui était un producteur belge, et il avait fait venir Madonna à Lille pour voir si, par hasard, elle ne pouvait pas être choriste de Patrick Hernandez. Elle avait fait des essais, puis finalement, ça n'avait pas matché, comme on dit, et elle était rentrée aux États-Unis avant de revenir quelques mois plus tard avec donc ce fameux titre « Holidays ».
On voilà. sait que tout se passe à Lille de toute façon, n'est-ce pas Lionel ?
Maintenant que j'ai bien étalé ma culture, je vous remercie. Romain Hoquet, c'était le journal de 8h.